Vous écoutez France Culture.
Talmudique. Une émission de Marc-Alain Wachnin. Rabbin Boissière, bonjour.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous recevoir à nouveau dans Talmudique. On s'était vu la semaine dernière pour parler des préparations de la fête de Pourim, de sa signification. Et aujourd'hui même, nous sommes à Pourim, c'est-à-dire que depuis hier soir, dans toutes les synagogues, la Megillah a été lue une première fois. Ce matin, dans toutes les synagogues, la Megillah est lue une deuxième fois. Les enfants et les parents sont déguisés. On a vu le rite des cadeaux qui sont échangés, la nécessité à la fois de la joie pour soi, mais de la joie qui est à partager. Cet après-midi aura lieu dans toutes les communautés, dans toutes les familles, un grand festin de Pourim où à la fois on boit, mais on est en même temps lucide de l'éthique que l'on doit préserver par rapport à l'autre. Alors, ce qui me semble important aujourd'hui, on avait commencé à le voir la dernière fois, c'est la particularité de ce rouleau d'Esther et de la théologie qu'elle propose, que ce rouleau propose, et la mutation, je dirais, théologique du judaïsme qui est à l'œuvre. Les rabbins, dans le traité Megillah, réfléchissent et mettent en place les lois de l'écriture et de lecture de cette Megillah. Elle doit être écrite sur parchemin préligné. On l'a vu la dernière fois, on a insisté sur ce lignage sous forme de rouleau, exactement comme les cinq livres de Moïse. Et tout comme les rouleaux de la Torah, la Megillah d'Esther rend les mains impures, ce qui est un petit peu bizarre comme formule. Mais ce qui signifie deux choses. Que la Megillah d'abord possède le même statut de sainteté que la Torah et qu'on ne peut l'aborder les mains nues, c'est-à-dire sans toutes les techniques d'interprétation requises, explique Lévinas, sauf au risque de s'impurifier les mains et l'esprit et être porteur justement d'une manière de penser, je dirais, inadéquate. Et l'égalité de sainteté entre la Torah et le livre d'Esther permet à Henri Atlan de nous offrir cette belle formulation. Tandis que la Torah écrite garde son statut juridique de code fondateur, le livre d'Esther acquiert de ce fait le statut de récit fondateur, d'une nouvelle réalité du peuple d'Israël et d'une nouvelle réalité de sa religion. Qu'est-ce que cette formulation vous inspire, Rabbin Yann Boissière ?
Merci pour ces citations effectivement qui nous emmènent au cœur de Pourim. Et de cette révolution théologique, effectivement, on mesure, enfin, des milliers d'années après, l'audace des rabbins d'avoir inclus donc dans le canon, dans le Tanakh, la Bible juive, effectivement, ce texte qui ne comporte pas le nom de Dieu et où, corrélativement, pourrait-on dire, effectivement, apparaît quand même le nom de Yehudi, juif. J'aime beaucoup cette distinction établie par le professeur Atlan entre loi donc et récit. Effectivement, le récit marque un type à la fois de littérature, mais une attitude existentielle, bien au-delà du type de littérature, c'est une attitude nouvelle vis-à-vis de l'histoire. Peut-être qu'effectivement, dans la mentalité biblique première, on le voit dans le récit de l'Exode, Dieu apparaît dans toute sa splendeur, dans toute sa souveraineté, il apparaît sur la scène de l'histoire, et effectivement, le récit de Pourim marque une nouvelle conscience théologique où Dieu agit, ne cesse pas, il n'est pas absent bien sûr, mais en tout cas il est occulté, il n'est pas présent de manière visible, et c'est à travers le récit, un récit qui est pris en charge par les hommes avant tout, que va s'opérer le lien avec Dieu et la façon dont il agit dans le monde.
Voilà, donc d'une certaine manière, on peut dire que la Megillat Esther et la fête de Pourim introduit une nouvelle manière d'être, je dirais, d'être juif, mais c'est pas simplement d'être juif, c'est la naissance même du judaïsme. et que cette naissance du judaïsme, il me semble, n'est plus liée simplement à la dimension du rituel qu'il ne faut pas évacuer, mais, on l'a vu la dernière fois, à la dimension de la lecture et à la dimension de la confiance que l'on doit avoir dans l'intelligence des hommes qui, par leur lecture, peuvent grandir, peuvent évoluer. Et vous avez signalé, alors on pouvait se poser cette question, mais qu'est-ce que ce livre d'Esther peut avoir de si particulier pour lui valoir une telle place par rapport aux autres livres de la Bible? Je rappelle ce texte du Talmud qui dit « Tous les livres disparaîtront et toutes les fêtes disparaîtront, sauf le livre d'Esther ». Donc, qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Et là, vous l'avez dit, c'est l'absence du nom de Dieu. Et là, je crois qu'il y a deux attitudes possibles par rapport à cette absence. Il y a celle des rabbins qui disent « Oui, bon, Dieu est absent dans le texte, mais il n'est pas absent dans l'histoire. » Alors, ils vont s'arranger pour retrouver dans des filigranes, dans des initiales, dans des valeurs numériques, la présence de Dieu. Mais je pense que c'est un texte qui est beaucoup plus courageux. C'est une position courageuse, à savoir que Dieu, dans ce texte, s'absente de manière, je dirais, presque définitive, et que Pourim devient, dans une sorte de maturité du peuple, qui commence avec Pessah, où Dieu est très présent, et de fait en fait, Dieu s'éloigne de plus en plus pour disparaître, pour donner à l'homme sa maturité et sa responsabilité la plus essentielle.
Absolument, absolument. Alors, avant quand même d'en venir à cette lecture comme vecteur nouveau, j'aimerais juste quand même rappeler sur le mot Yehudi. Yehudi, au début, venait de Yehuda, le royaume de Juda. Il y avait une dimension politique. Mais il y a déjà quelque chose de très intéressant quand même dans Yehuda. Donc, judéen, on pourrait dire en français, habitant du royaume de Juda, où habitaient d'ailleurs deux tribus, Yehuda, la tribu de Yehuda, et la tribu de Binyamin, dont est issu Mordechai. Mais je dirais que déjà dans ce Yehudi, encore au sens politique, qui n'est pas encore le sens que vous mentionnez, qui est vraiment une dimension nouvelle, il y a déjà une leçon fine, à savoir que les deux tribus portent en elles, quelque part, l'absence des 10 autres, qui elles ont été détruites et déportées, on le sait, en moins 722, lors de la prise de Samarie, dans un autre contexte. Donc je dirais que même encore au sens politique, Yehudi, au sens de habitant de Yehuda, il y a déjà une prise de conscience qu'il faut prendre en charge une dimension de l'absence. Il y a une amertume et une responsabilité dans le mot même de Yehudi. Mais vous avez tout à fait raison de le mentionner, Yehudi, au sens de la Megillah d'Esther, ne signale pas seulement un fait, je dirais, de hasard, auquel on pourrait effectivement, par moult inventivité, retrouver le nom de Dieu, bricoler, réarranger sa présence. Il y a une prise de conscience nouvelle, un mode que le mode de présence de Dieu est différent et qu'un stade de l'alliance différent est nécessaire. En gros, on peut imaginer trois étapes, après tout, dont le livre de Pourim serait l'ultime développement. Dieu intervient sur la scène de l'histoire. La dimension naturelle de la présence de Dieu, c'est l'histoire, dans les grands événements, la traversée de la mer Rouge, le Sinaï, la théophanie, tous ces moments-là. Et puis après, dans l'histoire du peuple juif, on le sait, une histoire peut-être plus sacerdotale, qui est initié par Ezra, donc une conception avec des notions nouvelles aussi de pureté, de mise en forme de la loi, etc. Une conception sacerdotale où peut-être naturellement Dieu habiterait dans le temple, bien qu'on sache qu'il habite entre les hommes, il n'habite pas physiquement dans le temple, mais en tout cas quelque chose de centré autour du temple. Et un dernier stade de conscience qui quelque part est encore le nôtre aujourd'hui et auquel l'actualité ne cesse de donner un sens de plus en plus profond. Dieu aujourd'hui est présent dans le texte parce que le temple a été détruit, les expériences politiques du peuple juif ont été amères, on le sait, mais le génie et la plasticité du judaïsme, c'est d'avoir toujours maintenu un fil effectivement différent. Dieu aujourd'hui est présent dans le texte et c'est peut-être justement dans la Megillah de Pourim qu'il est pour la première fois, je dirais, enfin non pas présent justement, mais en tout cas ça signale ce nouveau paradigme de la présence de Dieu et c'est à l'homme de le prendre en charge, lui, par son interprétation, par ses affirmations. Et en ce sens, Yehudi, effectivement, est l'invention du juif en tant que judaïsme, en tant que cette dimension d'interprétation. Nous savons que nous sommes liés à Dieu, mais plus de manière, je dirais, visible, première, mais à travers une activité intellectuelle assez sophistiquée et qui demande de l'effort, qui demande de l'interprétation, qui demande de la créativité et qui nous donne aussi cette plasticité face à l'histoire qui, elle, n'a pas cessé sa cruauté et n'a pas cessé les hard facts, qu'on peut dire, c'est-à-dire les faits bruts et violents. Mais voilà, cette manière juive de persister à travers les mots.
C'est presque la naissance, on pourrait dire, du juif talmudique, c'est-à-dire du juif de l'étude et de l'interprétation. Et j'ai vu une phrase d'un maître du chassidisme qui dit que l'homme croit en un Dieu qui croit en l'homme.
Magnifique.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, un Dieu qui croit en l'homme? Un Dieu qui croit que l'homme a un Dieu qui croit en l'homme qui a suffisamment justement d'intelligence, de liberté, de confiance en lui-même par rapport au texte pour l'interpréter vers la libération de lui-même et vers la liberté, parce que cet affranchissement de Dieu, on peut dire qu'il est complètement paradoxal, il faut la garder de manière paradoxale, cet affranchissement, cette libération de Dieu. À la fois il est absent, mais à la fois il est présent, il est à la fois visible et à la fois invisible.
Il y a un rite de Kippour qui fait allusion à ça. On a parlé la semaine dernière du fait de se déguiser, de porter des masques. Alors au passage, il y a une extrêmement belle formule du Réma. Réma, c'est le Rabbi Moïse Isserles, donc qui a apporté ses gloses au Shulchan Arour de Joseph Caro au 16e, 17e siècle, qui parle de, il ne parle pas lui de Masechot, il parle de Levushat Panim, de l'habillement du visage. C'est magnifique cette
formule.
Poésie de la façon dont on habille le visage, à la fois donc on le masque, on le cache, mais évidemment on le révèle. J'ai oublié ce que je voulais
mais
dire.
Mais moi, je m'en rappelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous vouliez signaler, peut-être, j'imagine, que le mot tarposet, qui veut dire déguisement, vient d'une racine hébraïque qui est ripus, qui veut dire la recherche, et qui a en même temps une autre racine qui est chofesh, qui veut dire la liberté.
Absolument.
Et comme si dans ce déguisement, dans ce carnaval, dans cette absence de Dieu, Lévinas va aller très loin, parce qu'il va utiliser le terme d'athéisme nécessaire, comme il dit à la page 49 de Totalité Infinie que j'ai sous les yeux, se rapporter à l'absolu en athée, c'est accueillir l'absolu épuré de la violence du sacré. Il y a, comme s'il y avait dans la présence de Dieu quelque chose de ce « au nom de Dieu » qui soit de l'ordre de la violence. Et c'est justement de cette violence dont il va être question, puisqu'on avait vu à la fin de l'émission de la dernière fois que le texte de la Megillat Esther pose un réel problème, puisqu'il est l'occasion pour les antisémites de dire « vous voyez les juifs à quel point ils sont violents, puisque dans ce texte, ils se sont retournés contre leurs ennemis et ils ont fait un massacre de 75 000 personnes. » Et donc, on va poser cette question de la violence, la question de ce texte, comment on peut l'interpréter, comment on peut répondre aux antisémites, comment on peut répondre à nous-mêmes de la présence de cette violence dans le texte. Mais juste encore un mot sur cet athéisme, sur cette religion nouvelle, ce judaïsme complètement paradoxal. Souvent, on me pose la question et je dis « je suis un rabbin athée ». Mais je pensais pas à quel point c'est ancré dans la Megillat Esther. Et en fait, cette idée de l'athéisme, elle nous vient de textes très profonds comme ceux de Rabbi Yitzhak Luria de la Kabbale qui évoquent le Tzimtzum, c'est-à-dire le retrait de Dieu à l'origine du monde.
Absolument.
Et ce qui me semble important, c'est qu'il y a un livre extraordinaire, il y a peut-être parfois des petits livres qui changent une vie. Je pense à ce livre de Hans Jonas, qui s'appelle « Le concept de Dieu après Auschwitz » et qui est suivi d'un très bel essai de Catherine Chalier, qui explique justement cette idée que Dieu s'est retiré du monde. Et j'aimerais lire, avant de continuer, un petit passage que j'ai trouvé qui dit donc « reconnaître ». Et donc, c'est comme une sorte de notion d'impuissance de Dieu. Et c'est reconnaître pour le croyant que Dieu ne se comporte pas comme un père à son égard, donc il s'est retiré, c'est accéder à une pensée plus exigeante, plus adulte, sans doute, quant à la modalité de, la présence, de la présence de Dieu parmi les hommes. Et c'est Catherine Chalier qui écrit que Hans Jonas s'inscrit dans cette tradition qui refuse l'hypothèse rassurante, mais infantile, d'un Dieu tout-puissant et qui se désolidarise de toute vision misérable de l'homme. Ça, cela me fait penser à Lévinas qui dit qu'il faut sortir de la religion infantile pour une religion d'adulte. Dernière citation, je sais que je parle beaucoup, mais la citation ici est importante, c'est Jonas dit qu'il a trouvé cette idée du retrait de Dieu et de l'impuissance de Dieu dans un livre de Etty Hillesum où elle dit « Si Dieu cesse de m'aider, ce sera à moi d'aider Dieu. Je prendrai pour principe d'aider Dieu autant que possible et si j'y réussis, eh bien je serai là pour les autres aussi. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t'en demande pas compte. C'est à toi, au contraire, de nous appeler à rendre des comptes un jour. Il m'apparaît de plus en plus clairement, à chaque pulsation de mon cœur, que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose, cependant, m'apparaît de plus en plus clairement, ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes.
Extraordinaire, extraordinaire. Effectivement, ce sont des... Il y a ça, je pense, depuis très très longtemps chez les rabbins, mais bon, là, il y a une expression contemporaine de cette idée, qui nous ramène d'ailleurs à la racine dont on parlait tout à l'heure, tarposet, le déguisement, itrapsout, le fait de se déguiser, donc dans ces racines qui veut dire à la fois ripus, le fait de rechercher, effectivement, c'est à nous de rechercher, tout n'est pas donné, il y a des choses qui ne sont pas visibles, et le sens, il faut aller le chercher. Et aussi le mot chofesh qui veut dire vacances, mais dans un sens, on pourrait dire théologique. Enfin, chofesh, c'est aussi la liberté. Chofshi, c'est libre en hébreu moderne. Mais la vacance, chofesh, la vacance de Dieu, au sens où Dieu manque. Et ça avait été pensé par les rabbins. Dans la Mishnah, il y a un nom extrêmement étonnant pour Dieu, c'est Amakom. Amakom, c'est un nom technique, c'est un nom qui manque justement quelque part de cette incarnation. Donc, il y avait déjà chez les rabbins une conscience qu'effectivement Dieu ne remplit pas comme un liquide remplirait un ustensile, etc. Quelque chose qui appelle l'homme à prendre sa responsabilité, à le rechercher. Ripus, chofesh, vacances, liberté et athéisme, c'est finalement ça. Un autre mot hébreu nous projette dans cette dimension, le olam, le monde, c'est ce qui est ne'elam, qui veut dire caché. Le monde n'est possible, disparu, comme vous le rappelez, à partir de cette très belle théologie de Yitzhak Luria, ce kabbaliste du XVIe siècle à Safed, qu'un monde n'est possible que si Dieu arrête quelque part d'être Dieu. C'est fou. Enfin, je veux dire, en laisse un petit peu pour les autres. En fait, il prend sur soi. Prendre sur soi, au sens vraiment le plus concret du terme, c'est voilà, en retirer un petit peu de soi pour laisser quelque chose d'autre et donc donner création à un autre monde. Il y a tout ça dans la théologie de Pourim, à savoir Dieu se retire mais laisse la place aux Juifs, aux Yéhoudis, à la recherche, à une prise de responsabilité. Qui n'atténue pas la difficulté de certains événements, bien entendu. Alors, mais c'est un stade mature.
Tout à fait. Alors, il y a deux choses dans ce retrait de Dieu. Je pense que c'est tellement révolutionnaire que c'est pas très grave si on s'est répété dans cette conversation. Mais c'est tellement révolutionnaire de dire que Pourim institue une religion dont la modalité c'est le retrait, l'absence de Dieu, voire la maturité la plus grande de la religion serait l'athéisme. Et c'est une phrase de Claude Rivlin où il dit à propos de Pourim, le futur du judaïsme, c'est l'athéisme. Mais je crois qu'il faut modérer cet athéisme en disant que supprimer Dieu ne veut pas dire être dans le néant éthique. Et là, je crois que c'est aussi ce que dit Lévinas dans Totalité infinie, mais dans toute son œuvre, c'est qu'il faut faire basculer, c'est une reconfiguration de la transcendance. C'est-à-dire qu'on n'accède pas à la transcendance par une sorte d'illusion théologique, mais par la relation éthique qu'on peut avoir par rapport à l'autre. Et dans cette phrase où il dit, par exemple, « poser le transcendant comme étranger et pauvre, c'est interdire à la relation métaphysique avec Dieu de s'accomplir dans l'ignorance des hommes et des choses. » Et là, ça nous mène à la deuxième question essentielle de Pourim. Comment est-il possible que des Juifs se soient retournés contre leurs ennemis? On peut comprendre la légitime défense, mais comment ce texte maintient l'idée du massacre? Est-ce que cette absence de Dieu n'introduit pas la possibilité même du mal et vient dire que le mal peut être commis par tous, mais justement n'a pas à être commis parce que on a la liberté et le devoir d'être éthique? Rabbin Yann Boissière.
Tout à fait, c'est un passage extrêmement problématique et effectivement, les parades rapides du style « les Juifs se sont défendus, l'autodéfense », bon certes, peuvent avoir leur signification historique, mais ne suffisent pas. Le texte pose le problème de la violence, le problème du bruit du monde. Enfin, il y a dans ce ra'ach, dans cette façon de faire des crécelles, quelque chose d'extrêmement paradoxal. On fait du bruit pour couvrir la méchanceté, pour couvrir le mal, mais le mal existe. C'est simplement qu'il faut faire du bruit un petit peu plus fort que le mal, que le bruit que fait le mal. Et bien sûr que c'est insatisfaisant, ça suffit pas de faire du bruit. Donc il y a comme la conscience d'une parade rapide, mais qui génère aussi son propre problème. Le peuple juif n'en est pas exempt, bien sûr. Comment pourrait-on en être exempt? Le mal peut nous guetter aussi dans l'excès. Il y a tout un thème de l'inversion dans Pourim, la joie, la cruauté, le massacre en victoire. On confond Baruch Mordechai avec Arour Aman, et peut-être qu'on le confond tellement qu'effectivement on va trop loin aussi dans cette inversion. Donc il y a un message qui nous est adressé, de faire attention aussi à ça. Je crois que le texte n'offre pas de réponse, mais en tout cas il pose la question de façon brutale et de façon dérangeante, je dois dire. Et
il faut accepter ces dérangements, mais je crois que ce qui est essentiel de comprendre, c'est que ce livre d'Esther qui raconte cette histoire, qui raconte la volonté de très antisémite d'Aman de détruire le peuple juif, qui raconte ce retournement des Juifs contre leurs ennemis. Par la suite, lorsque c'est codifié, on codifie la lecture, on codifie les cadeaux à donner, on a dit les rites, mais à aucun moment, il est important de le dire, n'a été codifié sous forme de loi la violence contre qui que ce soit. Et peut-être que c'est comme cela que je répondrai, mais je préfère rester avec une question que de répondre, mais je répondrai en disant, justement, il y a une lucidité de la violence dans l'humain, mais que l'homme peut dépasser par la lecture, par l'interprétation, par le souci éthique et surtout par l'athéisme. C'est-à-dire, pourquoi l'athéisme est si important? Car à aucun moment, on ne peut utiliser le nom de Dieu pour la violence. Jamais on ne pourrait dire « c'est au nom de Dieu ». Et je crois que c'est très très important que Dieu ne soit pas dans ce monde.
Et on sent cette gêne chez les rabbins qui, avec cette petite règle merveilleuse qui existe déjà dans un passage de l'Exode où après la mer Rouge, eh bien, le corps des Égyptiens, concrètement, étalé quelque part sur la grève, etc. C'est un verset qu'on est censé lire à voix basse, etc. Et il y a la même chose, les dix fils d'Aman qui périssent le même jour doivent être lus d'une seule traite, en un seul souffle. Alors pourquoi, nous disent les textes, parce que certes ils ont été punis en même temps, mais aussi parce qu'il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas élever la voix, il faut cesser d'être humain presque à ce moment-là, il faut supprimer ce souffle que Dieu nous a donné et dire cette phrase gênante, blessante, en supprimant sa propre respiration. Donc il y a effectivement certainement pas l'apologie de cette violence, il y a la conscience de quelque chose qui est gênant, qui nous adresse une question, et en même temps voilà, nous diminuer aussi, nous diminuer devant la violence au maximum. C'est peut-être ce qu'on peut faire de mieux, nous les hommes, nous diminuer aussi, comme Dieu a su se diminuer pour donner place à autre chose, face à la violence de l'histoire qu'on ne supprime pas, parce que là on serait dans l'illusion, eh bien il faut se diminuer au maximum pour être le plus éthique possible, c'est être au plus près.
Et ce que me semble dire le texte, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que on ne peut pas faire cela tout seul. C'est-à-dire que être lucide de la violence, c'est une chose, mais devenir intelligent pour nous épargner à nous-mêmes et aux autres la violence, c'est pas simplement une disposition naturelle. Cela se conquiert par l'intelligence,
absolument,
mais pas simplement par une réflexion, mais par la lecture. Et peut-être que cette notion de lecture de Pourim vient nous aider à penser cette possibilité du dépassement de la violence.
Tout à fait. Et c'est une nouvelle alliance, effectivement, qui prend en compte la violence de l'histoire, la violence du monde. Vous savez, il y a ce texte qui dit, qui avait gêné les rabbins, d'ailleurs, la théophanie du Sinaï, le Matan Torah, le don de la Torah, avec ce fameux Midrash, enfin, ça se trouve dans la Gemara, qui dit, voilà, en gros, si tu n'acceptes pas, voilà, j'ai ma montagne suspendue au-dessus de toi et en gros, je t'écrase. Ici sera ton tombeau.
Oui.
Eh bien, les rabbins ont été cherchés, là aussi, c'est révolutionnaire, dans ce texte de Pourim, le deuxième stade de l'Alliance. Il y a ce petit verset presque anodin à la fin, « Ki emu vekiblu ayodim ». Ils ont fait vivre et ils ont accepté, les Juifs ont fait vivre et ont accepté. Ils ont accepté quoi? Eh bien, ils ont accepté la Torah, mais plus de manière directe, de manière paternelle, un petit peu comme dans cette mise en scène du Sinaï, etc. C'est les Juifs qui ont accepté sur eux de prendre en charge les choses, de prendre en charge la violence de l'histoire, de ne pas s'en écarter. Et c'est le deuxième stade de l'Alliance, le stade, je dirais, moderne, effectivement, de cette pensée juive nouvelle qui est portée par ce texte d'Esther. Conscient des violences, conscient que l'éthique, c'est quelque chose qui se joue par l'homme avant tout.
Je pense dans cette modernité d'un judaïsme défini par l'athéisme à cette autre phrase d'un rabbin chassidique qui dit que la Torah nous a été donnée par Dieu pour nous libérer de Dieu. Et ça va, je crois, dans cette nécessité de prendre en charge la responsabilité de ses actes, de ses pensées, de son initiative, pour ne pas laisser apporter par Dieu cette histoire. L'histoire, maintenant, nous la faisons, et je crois que c'est, d'une certaine manière, l'enseignement le plus fondamental de Pourim, Rabbin Boissière.
Absolument, c'est ce qu'on disait, je crois, la semaine dernière. Cette fête de Pourim est destinée à avoir, outre le fait qu'elle est censée être la fête qui restera dans le monde futur, elle est censée avoir de plus en plus d'actualité. Encore une fois, parce que la réalité de l'antisémitisme nous rappelle constamment l'actualité de ce texte, mais de manière plus théologique et plus fondamentale encore, cet athéisme s'impose de plus en plus comme le fond sur lequel il nous faut penser. Il nous faut prendre encore plus de responsabilités, nous. Se départir des fausses idées faciles que Dieu est là, qu'il va nous aider, qui est une autre manière de reconstruire la statue, l'idolâtrie. Le texte de Pourim est fondamentalement un manifeste anti-idolâtre pour l'athéisme moderne. Il ne le formule pas comme ça, mais il le fait de manière presque démonstrative. Un texte, encore une fois, qui ne porte pas de nom de Dieu. C'est à nous d'agir. Ça se peut se résumer de façon très simple et ceci est de plus en plus vrai et sera de plus en plus vrai. La fête de Pourim prend une signification de plus en plus profonde, de plus en plus sérieuse, je dirais, au-delà bien sûr du folklore. C'est une leçon qui va prendre de plus en plus de poids, je pense.
Et en même temps, sans, comme je le disais, sans évacuer la transcendance, mais de la repenser différemment dans une éthique de l'altérité. Les rites instaurés lors de cette fête, me semble-t-il, vont justement dans le sens de cette mutation théologique, de ce renversement athéologique. Donner de l'argent aux pauvres et non plus au temple, donner des cadeaux à ses amis et non plus des sacrifices à Dieu, se réjouir pour soi avec les autres et non pas réjouir Dieu par tel ou tel culte.
Tout à fait. Dans cette petite mention qu'on a mentionnée, Mishloach Manot Ish Lereu, le fait de donner des plats, etc. Eh bien, il y avait ça dans le temple, effectivement. Il y avait des chérubins qui se regardaient face à face. Sauf que voilà, on n'a plus de chérubins, on n'a plus de tabernacle. Maintenant, le face à face, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit le donner. Et à travers des choses concrètes, des choses qu'il peut manger, des choses qu'il peut boire. Et Pourim insiste sur cette dimension de face à face des visages de l'histoire humaine. Et c'est à nous de porter. Nous sommes le nom théophore. Yehudi porte le nom de Dieu et c'est à nous de le faire aujourd'hui.
Et d'une certaine manière, comme vous l'avez signalé tout au long de ces deux conversations pour lesquelles je vous remercie, c'est se rappeler que l'homme est vivant de par la possibilité de s'exprimer par son visage, par cette torsion du masque qui fait qu'il est véritablement humain. Et je suis très content, Rabin Boissière, que dans cette conversation, à la fois de la semaine dernière et d'aujourd'hui, on est insisté certes sur l'absence de Dieu, maintenant sur le fait que la Megillah, c'est tellement nouveau, tellement révolutionnaire, un texte où le nom de Dieu n'apparaît pas, où Dieu n'apparaît pas dans l'histoire, où on a le courage de l'assumer, mais en même temps où l'homme et redevient le centre de cette métaphysique. Et j'aime cette formule de Lévinas qui dit « la dimension du divin s'ouvre à partir du visage humain ».
Tout à fait. Il y a une autre dimension qui dit exactement cette même chose, c'est la dimension du féminin, finalement. On n'a peut-être pas assez parlé, mais le personnage est évidemment principal et féminin, Esther. Ce qui me renvoie à une formule de Talleyrand, je crois, vis-à-vis de Louis XVIII. Louis XVIII reprochait à Talleyrand de dire « mais vous me parlez toujours trop de femmes et pas assez de politique ». Et Talleyrand de répondre « sire, les femmes, c'est la politique ». Et je dirais que là, on a... c'est aussi ça le nouveau paradigme du divin. C'est non seulement un paradigme où l'homme, au sens large, prend la main dans l'histoire, et aussi l'acceptation d'une certaine, peut-être, féminité de Dieu. C'est ça aussi. Ce sont des voies plus subtiles. Et on a cette articulation aussi dans Mordechai. C'est vraiment l'affirmation nette et claire des valeurs juives. C'est celui qui ne plie pas devant Aman. Esther, de façon plus décalée, mais c'est quand même elle qui va agir. C'est quand même elle qui va réussir à inverser le cours de l'histoire, mais de manière plus onduleuse. Et c'est ça aussi, il y a un aspect du féminin, je crois que c'est aussi une nouvelle dimension de Dieu qui sera peut-être de plus en plus présente dans notre tradition, cette dimension du féminin de Dieu qui veut dire à la fois prise de responsabilité et souplesse, finesse. C'est ça aussi qui se joue dans cet athéisme nouveau.
Ben merci, Rabbin Yann Boissière. C'était un immense plaisir de dialoguer avec vous la semaine dernière et cette semaine. Je vous souhaite, ainsi qu'à tous nos auditeurs, une très belle fête de Pourim. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. À la technique aujourd'hui, Philippe Palares. À la réalisation, Dany Journeau. Kol Touv et Leitraot, à la semaine prochaine.
Kol Touv, Leitraot.